Bonjour. Un danger majeur pour notre pays a été éliminé. Commentaire du président Macron ce matin après la chute de l'État islamique confirmée par les Kurdes. La dernière poche de résistance à Baghouz, à l'est de la Syrie, est tombée. La guerre est finie, mais ce n'est pas pour autant la paix. La menace terroriste reste entière, nous dira notre invité, un spécialiste de la Syrie, Fabrice Balanche. C'était il y a un an l'attentat de Carcassonne et Trèbes. 4 personnes tuées par un terroriste, finalement abattu par la police dans un Super U. Le Premier ministre leur a rendu hommage ce matin en présence des familles. Des centres-villes complètement bouclés par les forces de l'ordre pour l'acte 19 du mouvement des Gilets jaunes. Les lieux de regroupement habituels des manifestants et des casseurs ont été interdits. Tout est calme à Paris. La matinée a été mouvementée à Nice où des Gilets jaunes ont tenté de braver l'interdiction. Dans ce journal également, une méga manif à Londres. C'est en tout cas ce qu'attendent les anti-Brexit cet après-midi pour réclamer un nouveau référendum. 2 méga champions français, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, champions du monde de danse sur glace pour la 4e fois. Le festival Banlieue Bleue qui rend hommage ce soir à Rachid Taha. C'est le conseil culture du week-end signé Mathieu Culeron. Et puis la météo, un dégradé de gris et de bleu en descendant du nord vers le sud. Des températures proches de 24 degrés sur les régions méridionales.
France Inter.
C'est l'une des villes où l'inquiétude était la plus forte à la veille de l'acte 19 du mouvement des Gilets jaunes à Nice. Ils sont quelques centaines à braver l'interdiction de manifester au centre-ville à Nice, comme à Paris, Toulouse, Bordeaux, Rennes et autres villes. Les lieux emblématiques des précédentes manifestations ont été bouclés par les forces de l'ordre pour éviter les saccages et les pillages tels qu'ils ont pu se produire samedi dernier sur les Champs-Élysées. Les champs où le nouveau préfet de police Didier Lallement est d'ailleurs allé faire une tournée d'inspection ce matin, on va y revenir. Mais d'abord, direction Nice avec vous, Fabien Fourel. Nice où la matinée a été mouvementée.
Oui, exactement, avec des gilets jaunes, vous l'avez dit, qui ont bravé l'interdit pris par le préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté pris par le préfet sur demande de Christian Estrosi. Ils se sont rassemblés à partir de 10h, place Garibaldi, en plein centre-ville, ils étaient une quarantaine. Des gilets jaunes qui ont rapidement été repoussés par les forces de l'ordre, 500 CRS et gendarmes mobiles, qui ont fait usage de leurs boucliers pour disperser ces petits groupes de gilets jaunes, parfois avec quelques petits blessés aussi, comme une femme de 75 ans qui est tombée sur la tête et qui a dû être évacuée blessée grave ce matin. Il y a eu une quinzaine d'interpellations, c'est ce qu'on nous dit du côté de la préfecture. Et maintenant, les regards se tournent vers la gare où un autre rassemblement doit débuter dans une heure maintenant. Là aussi, rassemblement qui pourrait être sous tension donc pour ces gilets jaunes et ces forces de l'ordre. C'est une après-midi qui s'annonce longue, qui démarre dans une ville avec une image forte finalement, Yves, une image de ville morte où il n'y a personne dans les rues. Les Niçois ont déserté notamment l'avenue de la République où nous sommes actuellement.
Fabien Fourel à Nice, à Paris. C'est le quartier des Champs-Élysées qui est bouclé par les forces de l'ordre. Tout un quartier qui inclut l'Assemblée nationale, Matignon et l'Élysée. 6000 policiers et gendarmes ont été mobilisés, soutenus par des soldats de l'opération Sentinelle chargés de protéger les bâtiments. L'armée n'est pas en charge du maintien de l'ordre, a bien précisé le président de la République. Des unités anticasseurs ont également été déployées dans le secteur où s'est rendu pour inspection ce matin le nouveau préfet de police, Didier Lallement, suivi par David Di Giacomo.
Pas l'ombre d'un gilet jaune ce matin sur les Champs-Élysées. L'avenue est très calme, quadrillée par les forces de l'ordre. Le nouveau préfet de police vient motiver les policiers. Didier Lallement en profite pour leur rappeler les consignes.
Bonjour mon commandant. Bon, on vous a expliqué les nouveaux concepts d'emploi, le nouveau mode d'intervention. Fermeté et professionnalisme, ce sont les mots d'ordre, réactivité, de manière à empêcher immédiatement toute casse, toute destruction, toute remise en cause de l'ordre républicain auquel le gouvernement est attaché. Nous sommes toujours alertés par la présence d'éléments radicaux. Nous partons toujours du principe qu'il peut y en avoir, et il y en aura à l'évidence, et nous nous mettons en position de pouvoir réagir.
Pour être plus réactif que samedi dernier, la préfecture de police s'appuie désormais sur les toutes nouvelles brigades de répression des actions violentes, des groupes de 50 hommes qui ont pour mission d'interpeller dès les premiers débordements. Ce matin, plusieurs manifestants ont écopé d'une amende de 135 euros pour avoir tenté de se rassembler dans une zone où il est interdit de manifester.
Voilà, une quinzaine de personnes ont été verbalisées, 31 personnes interpellées. Aucun incident à signaler pour l'instant sur les rassemblements du Trocadéro et du Château. Alors, où sont passés les gilets jaunes à Paris, Julie Pietri? Vous non plus, vous n'avez vu personne dans le quartier des Champs-Élysées tout à l'heure.
des fouilles de sacs à chaque croisement, des fourgons de gendarmerie en plein milieu de l'avenue. Les Champs-Élysées avaient effectivement de quoi surprendre ceux qui n'étaient pas au courant des heures de la semaine dernière. En 10 minutes, Felipe, venu du Brésil, a dû ouvrir son sac 4 fois.
J'ai été arrêté par un policier sur les Champs-Élysées. Il voulait regarder mon sac, voir si j'avais quelque chose d'interdit. Je suis un peu inquiet de ce qui va se passer ici.
Est-ce qu'on est vraiment en sécurité ici? Questionne sa compagne. Les gilets jaunes, interdits de Champs-Élysées, se sont donc donné rendez-vous, notamment place d'Enfer Rochereau, avec sono de circonstances. Frédéric, militaire et gilets jaunes.
Je n'écoute pas leur vocabulaire.
Avec leur loi liberticide, ça devient impossible. Il y a un mec qui a été, il était tout seul, il avait un masque et des lunettes dans son sac à dos, il a pris 135€ d'amende. On fait plus simple, hein. Tout ce qui est à l'intérieur du périph', il n'y a pas le droit de manifester, et puis voilà quoi, c'est pas possible.
Florence, sur les Champs samedi dernier, n'a pas supporté, elle, d'être assimilée aux casseurs par certains membres du gouvernement.
Je n'écoute pas leur vocabulaire, ils sont incompétents, méprisants, donc j'écoute pas ce qu'ils disent. Quand ils auront une réponse politique, j'écouterai.
Ici à d'Enfer Rochereau, le cortège vient juste de partir.
Julie Pietri à d'Enfer Rochereau, donc avec Romain Lucquiens.
France Inter, Yves Decaen.
Ça ne faisait plus aucun doute depuis déjà de longs mois. Ce n'était plus qu'une question de temps. C'est maintenant officiel. Le pseudo-califat autoproclamé dit l'État islamique a vécu. Les États-Unis d'abord et puis les forces arabo-kurdes ont annoncé avoir éliminé les dernières résistances du côté de Baghouz à l'est de la Syrie. Plus aucun drapeau noir de Daesh ne flotte sur la Syrie 2 ans après avoir été banni d'Irak. Près de 5 ans après avoir conquis une partie de ces deux pays. La guerre est donc finie. Ce n'est pas pour autant la paix. On va y revenir. Aurélien Colli, vous êtes le correspondant de France Inter dans la région à Beyrouth et vous rentrez justement de Baghouz où l'offensive finale avait été lancée depuis 2 mois déjà.
Oui, Baghouz est libéré, le soi-disant califat est totalement éliminé. Ça, c'est pour le communiqué victorieux des forces démocratiques syriennes ce matin qui officialise ce que tous les commandants me disaient déjà le week-end dernier quand j'étais sur place. Mais les Kurdes, en fait, ne voulaient pas que cette annonce intervienne au moment de leur fête nationale, hier et avant-hier, pour ne pas s'attribuer une victoire qu'ils partagent aussi avec les tribus arabes alliées sur le terrain. Alors, il aura fallu 2 mois, 3 mois même aux forces démocratiques syriennes pour venir à bout de Daesh dans ce village agricole Baghouz aux confins du nord-est syrien. Il aura fallu l'évacuation de 50 000 personnes civiles ou familles de djihadistes, la reddition aussi de milliers de combattants ces derniers jours. La stratégie, c'était au sol le siège de l'enclave en resserrant l'étau doucement, en ouvrant aussi un corridor et en négociant discrètement la sortie des civils ou la reddition de combattants. Et dans le ciel, en même temps, les frappes aériennes de la coalition qui ont tué, qui ont blessé les combattants, mais aussi des civils, il faut le dire, en dépit des précautions affichées. Finalement, c'est cette stratégie de harcèlement, de guerre aussi psychologique qui a fini par saper le moral du dernier carré à Baghouz. Car attention, cette défaite militaire, ce n'est pas la disparition de Daesh. Une partie de ses cadres, de ses combattants n'a pas été arrêtée et ils sont disséminés dans le désert irako-syrien ou se sont fondus dans la population civile pendant le repli de Daesh. Un peu comme Al-Qaïda en Irak il y a quelques années, le projet politico-religieux, la franchise Daesh ne devrait pas disparaître non plus.
Aurélien Colli à Beyrouth, invité de ce journal. Fabrice Balanche, maître de conférence à Lyon 2, spécialiste de la Syrie, bonjour.
Bonjour.
Alors Daesh n'a plus de territoire, mais reste une menace, hein, car l'État islamique, rappelons-le, c'était d'abord une idéologie.
Oui, Daesh, c'est une organisation qui est capable d'apprendre de ses erreurs, hein, et par conséquent de changer de tactique. Passer du contrôle territorial à l'action terroriste clandestine, ça lui pose pas de problème, parce que le contrôle du territoire, c'est pas une fin en soi, c'est juste c'est temporaire, tactique, et son idéologie est toujours vivace. Il a déjà la parade de toute façon, c'est-à-dire mythifier l'État islamique territorial comme un paradis perdu, éliminé par les ennemis de l'islam pour l'empêcher justement de se réaliser. Et donc il va se recycler dans l'action clandestine aujourd'hui.
Un danger majeur pour notre pays a été éliminé, a dit ce matin Emmanuel Macron sur Twitter, en ajoutant que la menace demeure et que la lutte contre les groupes terroristes doit continuer. Il a évidemment raison. On l'a vu en Irak où Daesh avait été éliminé en 2017 et où les attentats ont continué.
Oui, je suis pas sûr que le danger majeur soit véritablement éliminé tout de même, hein, parce que les causes qui ont produit Daesh sont toujours là, et après une petite période de latence, on va le voir ressurgir. Hein, la contre-insurrection lancée par les forces arabo-kurdes, par l'armée irakienne, ne fait qu'accentuer le ressentiment chez beaucoup de sunnites. Vous avez une situation économique qui est désastreuse. J'étais à Raqqa l'année dernière et beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils regrettaient finalement Daesh parce qu'au moins à cette époque, eh bien, le système fonctionnait. Donc il faudra s'attendre à des attentats terroristes, à une résurgence de l'État islamique assez rapidement.
D'où l'importance aujourd'hui, puisque la population garde une certaine sympathie pour la période révolue, l'importance de la reconstruction qui va s'engager.
C'est là le problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reconstruction. Et notamment à Raqqa, vous n'avez aucun plan de reconstruction, aucun début de reconstruction. Ensuite, vous avez tout un système d'irrigation qui ne fonctionne plus, des terres qui ne sont plus cultivées, une aide humanitaire qui est finalement assez rare. Et donc, les gens ont l'impression d'être abandonnés. Ce qu'on me disait, c'est que vous êtes venu détruire la ville, détruire l'État islamique parce qu'il représentait une menace pour vous, et vous nous laissez aujourd'hui au milieu des ruines. Donc comment voulez-vous qu'on accepte cette situation? Il faudra un plan Marshall pour le nord-est de la Syrie, mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de reconnaissance internationale de cette région, et puis il faudrait passer par le gouvernement de Damas, et ça c'est inacceptable aujourd'hui pour l'Union européenne comme pour les États-Unis. Donc la reconstruction, si elle ne vient pas, ça va être vraiment le substrat de la résurgence de l'État islamique.
Et puis reste le cas Abou Bakr al-Baghdadi, le fondateur, le créateur de ce califat dont on est sans nouvelles.
On est sans nouvelles. Alors est-ce qu'il était tué? Est-ce qu'il s'est échappé? En tout cas, s'il était tué, il risque de jouer à l'imam caché, hein, ressurgir à la fin des temps, ça fera partie du mythe. Mais de toute façon, il a fait des émules, il a ses lieutenants qui sont capables de recréer le réseau en Syrie, en Irak, et puis ils ont essaimé aussi en Afghanistan, au Yémen, donc on n'en a pas fini avec Daesh, même si al-Baghdadi a été tué.
Fabrice Balanche, maître de conférence à Lyon 2, spécialiste de la Syrie. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de ce journal. Hasard de l'actualité, ce même jour où la chute de l'État islamique est confirmée, on rend hommage à Carcassonne et Trèbes aux victimes de l'attentat survenu ce jour-là, le 23 mars 2018, il y a tout juste un an. 4 personnes tuées, dont 3 dans le super-U de Trèbes, où le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltram, qui fera partie des victimes, avait pris la place d'une otage. Le temps n'a pas refermé les plaies de ceux qui ont perdu un proche et de ceux qui ont été blessés, a dit ce matin la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, avant que le Premier ministre, à son tour, ne prenne la parole à Trèbes, Alain Gastal.
Oui, le Premier ministre qui a parlé du courage, de la solidarité, de la force des habitants de Trèbes, qu'il avait pu constater déjà il y a un an quand il était venu rencontrer les familles de victimes, quelques jours à peine après les attentats, et qu'il a pu confirmer aujourd'hui. Le symbole de l'horreur a poursuivi Édouard Philippe, est devenu aujourd'hui le symbole de l'honneur. Et puis un peu comme un écho, quelques minutes auparavant, c'est la fille de Christian Medves, le boucher, abattu par le terroriste dès son entrée dans la supérette, Julie, donc, qui avait pris la parole et qui avait voulu, elle, s'adresser directement au Premier ministre.
Mon père m'a élevé dans l'amour et c'est bien ce sentiment que je compte m'acharner à transmettre. Ils n'auront donc pas le plaisir d'avoir ma haine, mais ils n'auront pas mon silence non plus, car me taire serait trahir. Trahir le souvenir de mon père, mais aussi l'attachement qui est le mien à l'égard de mon pays. En réalité, monsieur le Premier ministre, malgré le travail accompli, je crois que j'ai très peur à l'idée que les mots ne suffisent pas et que nous ne parvenions pas à éviter une telle barbarie. Qu'une telle barbarie ne se reproduise, car je sais à quel point il est difficile et long de lutter contre les idéologues du chaos qui arment les esprits de ceux qui chargent et utilisent ensuite leurs armes pour semer la terreur.
Voilà, Julie qui n'a pas seulement parlé de son père, qui a également parlé des autres victimes. Bien sûr, Hervé Sosna, le maçon qui aimait la poésie, qui écrivait des poèmes dans son petit logement à Trèbes. Jean Mazière, le retraité, qui aimait rien tant que rendre service aux autres. Et puis, le colonel Beltram, dont Julie a parlé du geste, un geste qui, selon elle, magnifie la condition humaine.
Alain Gastal à Trèbes avec Thibault Nassim Ben. L'enquête liée à cet attentat, bien sûr, se poursuit. À ce jour, 4 complices présumés du terroriste ont été mis en examen. 3 d'entre eux et sa petite amie ont été incarcérés. À Londres, une nouvelle mobilisation des anti-Brexit cet après-midi dans les rues de la capitale pour réclamer un nouveau référendum. Le délai pour la sortie de l'Union, d'abord fixé à la fin du mois, a été reporté de quelques semaines par les 27, sous réserve que l'accord de divorce proposé par la Première ministre Theresa May puisse être voté par la Chambre des communes. Rien de moins sûr, même pas sûr, que le vote soit organisé comme le laisse entendre un courrier adressé par Theresa May aux députés. C'est justement de cette tragicomédie que les manifestants de ce samedi ne veulent plus. Marina Daras à Londres.
Arrêtez la folie du Brexit. C'est le message de la marche qui devrait débuter très bientôt sur Park Lane, près de Hyde Park. Les organisateurs attendent et espèrent une très forte participation, au moins autant que la dernière manifestation qui avait mobilisé près de 600 000 personnes. Près de 3 ans après le référendum, la mobilisation ne semble pas s'essouffler. Une pétition demandant au gouvernement de révoquer l'article 50 a dépassé les 4 millions de signatures ce matin. Tout comme la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, beaucoup de Britanniques pensent profiter au maximum de l'opportunité offerte par le délai accordé par Bruxelles pour tenter d'éviter d'une part la catastrophe d'une sortie sans accord et d'autre part l'accord négocié par Theresa May et ses conséquences que la ministre écossaise qualifie de désastreuses. À Londres, Marina Daras pour France Inter.
Au Mozambique, 400 morts au moins. Le bilan du cyclone qui s'est abattu sur l'Afrique australe s'est encore aggravé. Mozambique, mais aussi Zimbabwe et Malawi. Au total, ce sont près de 700 morts qui ont été déjà comptés suite aux inondations et coulées de boue. Dans le sud-ouest de la France, le Paul Lohan provient bien du Grande América. L'analyse des prélèvements le confirme. Les deux oiseaux mazoutés retrouvés cette semaine à Andaille dans les Pyrénées-Atlantiques et Messanges dans les Landes sont les victimes du cargo italien qui avait coulé au large de La Rochelle le 12 mars. Les premiers amas de fioul ne devraient pas apparaître sur les côtes avant plusieurs jours encore, selon la préfecture maritime. Et de 4 pour le couple Papadakis-Cizeron, un quatrième titre de champion du monde de danse sur glace décroché au Japon, 2 mois seulement après un 5e titre européen. Du jamais vu pour les deux Français, Gabriela et Guillaume, qui dominent plus que jamais leur discipline. Guillaume Cizeron au téléphone de David Valverde.
C'est deux sentiments vraiment différents par rapport à la première fois il y a 4 ans. C'est sûr que maintenant on a beaucoup plus d'expérience et ça a une autre saveur vraiment. On est vraiment très 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 fiers de nous. Je pense qu'on acquiert beaucoup d'expérience sur la route et on est vraiment très satisfaits de nous aujourd'hui. Il y a toujours pas mal de pression à rentrer en tant que favori et puis c'est vraiment un challenge différent parce que nos compétiteurs sont vraiment très bons, ils travaillent très fort et ça pousse derrière nous. Donc on peut jamais vraiment se reposer sur nos acquis, il faut continuer à faire du mieux qu'on peut parce qu'on est jamais à l'abri d'une erreur et c'est une pression différente mais c'est une grosse pression également.
Voilà, il ne leur manque plus aux deux Français que la médaille d'or olympique puisqu'ils avaient dû se contenter de l'argent l'année dernière en Corée. Allez, c'est de la musique. C'est en banlieue, le festival Banlieue Bleue, 36e édition jusqu'au 19 avril. Et déjà un premier temps fort ce soir, un hommage à Rachid Taha, le rocker franco-algérien disparu le 12 décembre à l'âge de 59 ans. Un concert où se retrouveront une grande partie de ses fidèles musiciens, Mathieu Culeron.
6 mois après sa mort, Banlieue Bleue a contacté Maxime Delpierre, le directeur musical de Rachid Taha, pour envisager un hommage avec ses musiciens les plus fidèles. Une émotion particulière pour celui qu'il a tant côtoyé sur scène.
Je trouvais que c'était une bonne idée dans la mesure où j'avais vachement envie d'entendre cette musique. Avec une petite peur qu'on ne l'entende plus. Voilà, j'ai eu un petit peu peur aussi des émotions, le fait que ça arrive si vite. J'avais super envie de retrouver le groupe avec lequel j'ai tourné pendant 3 ans. Ah, ils jouent tous le jeu, ça c'est vraiment génial.
Le groupe s'appelle Kebab Loula, fruit de la passion de Rachid Taha pour les calembours.
Ça faisait partie de son type d'humour, c'est comme Algérienne a déclaré quand il arrivait à la douane. Qui m'aime mes juifs, enfin, ça faisait partie de ces phrases types qui sont restées un peu dans notre mémoire et qu'on aime bien se souvenir.
Parmi ceux présents lors de cet hommage, il y a Hakim Amadouche, joueur de oud, ami proche de Rachid Taha, qui se souvient de lui comme un grand rocker.
D'une élégance, d'une force, d'un punk mélangé avec Obriltoum, je sais pas.
Lors de cet hommage, la chanson Barabara va être jouée, véritable hymne du premier printemps arabe. Elle résonne désormais avec l'actualité algérienne.
Cette chanson dit « Dehors, dehors ». Il aurait été vraiment fier de ce qui se passe, vraiment.
Banlieue Bleue rend hommage à Rachid Taha, un artiste reconnu par les punks anglais comme le plus grand rocker français.
<t'->
Hommage à Rachita ce soir à l'Embarcadère, à Aubervilliers. Demain, la nouvelle scène du jazz français avec Yom et Théo et Valentin Secaldi à la Maison de la Musique à Nanterre, banlieue bleue, un peu partout en banlieue parisienne jusqu'au 19 avril. À noter aussi dans ces conseils du week-end à Lille, le festival Série Mania toute la semaine jusqu'au 30 mars pour faire le plein de séries, de rencontres et de débats. Tout savoir sur le programme sur seriemania.com. Et puis à Paris, bien sûr, l'exposition Tout en Camon à la grande halle de la Villette. Plus de 150 objets trouvés dans le tombeau du jeune pharaon. C'est l'une des dernières occasions de les admirer d'ailleurs en France avant le retour au futur musée du Caire qui doit ouvrir en 2020. C'est à la grande halle de la Villette, donc à Paris, jusqu'au 15 septembre.
La météo avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Jean-Michel Golinski.
Du gris vers le bleu aujourd'hui en parcourant le pays du nord vers le sud, près de la Manche. Les nuages qui descendent des îles britanniques vont maintenir un ciel souvent chargé sur les Hauts-de-France, le littoral normand et le nord de la Bretagne, avec possiblement quelques gouttes en fin de journée près de la Belgique. Plus bas, sur Champagne-Ardenne et de la région parisienne au département breton de l'intérieur, temps variablement ensoleillé cet après-midi, et plus au sud, ciel limpide et soleil vaillant. Les températures proches de 24 degrés sur les régions méridionales ne vont pas dépasser 12 près de la Manche. Il fera 16 à Rennes, à Tours et Paris, 18 à Strasbourg et Nevers, 20 à Lyon, 21 à Limoges et à Cognac.